Avis de valeur, une émission présentée par Henri Buzicazo.
Très heureux de vous retrouver pour cette émission d'avis de valeur mensuelle. Je vais commencer par vous rappeler la formule. Avis de valeur, ce sont deux regards qui se croisent sur un grand sujet immobilier qui intéresse les professionnels, mais le public aussi. Ces deux regards, ils sont portés l'un par un... quelqu'un qui a des responsabilités. Et aujourd'hui, ça va être quelqu'un qui a la responsabilité d'être pionnier. D'autrefois, ce sont des patrons de syndicats, des patrons d'entreprises leaders. Aujourd'hui, c'est un pionnier. Et ça n'est pas rien. Et puis, face à ce pionnier, Didier Minieri, qui est un architecte, une femme syndic... Et un grand syndic, parce que je dis volontiers aussi qu'elle est prof à l'IMSI, ça veut dire qu'elle transmet, elle le fait avec beaucoup de cœur. Et j'espère qu'elle fait lever des vocations. On va parler aujourd'hui de la surélévation des immeubles, et de manière un peu provocatrice, mais peut-être avec une certaine justesse au fond. Hein. Je me demande si la surélévation des immeubles est un fantasme, ou si c'est une aubaine, et si ça peut réellement apporter à nos villes et à leur copropriété. Avis de valeur commence, on y va.
Avis de valeur, la rumeur d'Henri.
Rappelez-vous, Christine Boutin, ministre du Logement, il y a quelques années, un matin, fait une déclaration à la radio. Elle dit on pourrait, pour créer plus de logements, déjà on avait il y a quelques années un problème de déficit, et notamment dans nos grandes villes, on pourrait surélever les immeubles de nos villes les plus importantes ou des villes moyennes. L'opinion hésite entre s'en amuser ou trouver que finalement c'est assez innovant. Et ça y est, la tendance, l'idée est lancée. Et depuis, c'est vrai que c'est un sujet tellement sérieux que on le voit s'inscrire dans le projet de loi climat résilience qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale et bientôt au Sénat. Il s'agit donc bien d'une voie qui est tracée par le législateur et dont certains professionnels s'occupent d'ores et déjà. Ce sont des architectes et parmi nous, bien sûr, l'un d'entre eux, je l'ai cité, et puis des syndics de copropriété qui eux-mêmes mettent en œuvre, commencent à mettre en œuvre cette solution. Alors, est-ce que c'est une vraie solution ou pas? Et est-ce qu'elle est connue? Avis de valeur, c'est aussi des réactions à ce que pense l'opinion dans la rue. Notre réalisatrice Charlotte Eckerle est allée mesurer si la surélévation était perçue comme une solution par le public.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Avez-vous déjà entendu parler de la possibilité de surélever les immeubles existants dans nos villes ?
Oui.
Oui. Alors pas du tout, je connais pas du tout cette possibilité, mais ça m'étonne pas que l'existence soit là.
Bon, alors, une réponse positive, mais pas très bavarde, certains en ont entendu parler, et puis d'autres disent clairement qu'ils apprennent que cette solution existe. Didier, lorsque je disais de toi que tu étais un pionnier, l'un des pionniers, parce qu'avant toi, on pourrait citer Jean-Loup Taïeb aussi, qui a inventé le salon de la copropriété d'ailleurs, et qui parmi les premiers à travailler sur ces sujets. On peut penser à Olivier Brann, qui est un avocat et qui a beaucoup également œuvré. Et puis c'est vrai que toi, tu es allé plus loin, tu as créé une entreprise dédiée à la surélévation. Deux mots sur ton entreprise. Et quelle notoriété penses-tu que la surélévation a aujourd'hui dans l'univers des copropriétaires ?
Alors, effectivement, bonjour à tous. Merci Henri pour cette invitation. Effectivement, donc Didier Minieri, moi j'ai créé Upfactor, qui est une société donc spécialisée dans la détection et l'accompagnement notamment des copropriétés dans des projets de surélévation. Comme on peut l'écouter même par rapport à cette première intervention, à ce premier micro-trottoir, on voit bien qu'une des complexités, c'est de savoir si son immeuble est éligible. Et donc, chez Upfactor, on a décidé, nous, de s'appuyer sur la data et notamment de développer un logiciel qui permette de détecter et d'aider notamment les gestionnaires de copropriété à savoir si les immeubles qu'ils gèrent ont un potentiel de surélévation au regard des règles d'urbanisme. Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet important, c'est comment détecter et où trouver les meilleures opportunités possibles.
Tes terrains de jeu aujourd'hui, ce sont des grandes villes, peut-être également des villes moyennes, où sévis-tu pour l'instant ?
Alors aujourd'hui, Factor, bien sûr, et notre logiciel géoservice, on l'a développé et implémenté, bien sûr, sur le Grand Paris. Bien sûr, Paris est en premier lieu un formidable terrain de jeu, entre guillemets, mais aussi toutes les grandes métropoles françaises aujourd'hui où, on va dire, il y a une véritable volonté de faire, de créer plus de logements, en tous les cas, d'améliorer l'existant en tant que tel. Donc, Lyon, bien sûr, Lille, Toulouse, le sud de la France est en train de venir, Marseille, Nice est en train de se développer également. Petit point intéressant quand même, on a un sujet très particulier sur les stations de montagne, notamment l'immobilier touristique, où la surélévation est aujourd'hui, apparaît en tous les cas comme un véritable outil de la rénovation globale, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler.
Alors, sur la notoriété, je me tourne vers Sophie. Elle est syndic, voilà, j'ai dit, elle est prof aussi, elle fait partie des syndics qui suivent l'actualité, l'innovation dans la copropriété, et puis elle connaît bien ses confrères et ses consoeurs. Sophie, c'est une solution connue ou est-ce qu'il y a encore un grand travail de didactique, de prosélytisme à faire auprès des syndics, auprès des gestionnaires et auprès des copropriétaires ?
Alors, je pense que c'est une solution entendue, parlée, mais pas plus que ça auprès des syndics. Franchement, les syndics, jamais j'en ai vu. Je fais le tour des cabinets, on n'en parle pas plus que ça. J'ai jamais la question, alors que j'accompagne des cabinets. J'ai jamais vu la question. Je pense qu'elle est entendue, un petit peu connue. Mais il faut savoir aussi que sur le terrain, en copropriété, comme tout est toujours un peu plus complexe, je pense qu'il y en a certains qui ne veulent pas surtout la mettre en place. Que la mettre en place, ça veut dire beaucoup de choses. Et en copropriété, c'est quand même beaucoup d'efforts. Je ne suis pas sûre que les syndics soient prêts à cela. Et les copropriétaires ne la connaissent pas. Ça, c'est sûr.
Réaction de Didier. Alors, toi, tu es à la manœuvre. Nécessairement, tu as affaire à des syndics qui connaissent cette solution et qui travaillent avec toi. Mais si tu prends un peu de hauteur, est-ce que tu as l'impression que ce travail de didactique que j'évoquais, d'information, doit continuer et que c'est une partie de ta mission avant même de faire ?
Complètement. Je dirais qu'effectivement, comme toujours dans ces opérations un peu complexes, les premiers projets sont portés par des indépendants qui y croient, qui ont la possibilité d'engager leurs propres responsabilités sur les sujets. Je tiens juste à souligner, par exemple, la Régie Franchet à Lyon a été un de nos premiers clients et partenaires qui, vraiment, c'est des gens qui ont vraiment cru au sujet et qui nous ont aidés à développer les premiers. Et on se rend compte qu'à force d'en parler, à force d'intervenir dans les salons, dans au sein de la CoPro notamment, on a notamment eu un premier partenariat avec, un réseau national, hein, c'est-à-dire Auralia, et sa présidente et sa directrice générale, Karine Olivier, à l'époque, qui nous a fait confiance.
Entreprise du Gironde, entreprise qui est dans le Gironde de Nexity, hein, on peut le dire.
Tout à fait. Et là, grâce à sa confiance, elle a décidé de nous confier l'intégralité de ses biens en gestion sur la métropole de Lyon et l'Île-de-France, qu'on a analysé via notre logiciel géoservice. C'est un peu plus de 4900 immeubles. Et là, d'un seul coup, on a découvert un peu plus de 217 projets possibles. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que d'un seul coup, là, il y a un process qui est en train de se mettre en place par le gestionnaire, par le syndic, qui dit, tiens, on va offrir à nos clients une opportunité de peut-être aller valoriser leur immeuble en allant chercher cette possibilité de surélever.
Alors, on reviendra sur le processus parce que on va creuser toujours grâce aux questions dans la rue posées par Charlotte Eckel au public, on va savoir si les objectifs de cette surélévation sont perceptibles de la part de l'opinion, c'est-à-dire des copropriétaires.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Que pensez-vous de cette solution, notamment pour loger plus de ménages et pallier le manque de logements dans les grandes villes ?
De manière générale, je pense qu'il faut respecter l'esthétique existante, donc je ne suis pas très favorable à cette idée.
Bon, je trouve ça très bien.
Je pense que ça peut être intéressant, si ça peut permettre d'avoir plus de logements. En revanche, je pense aussi que ça peut mettre des commerces, ça peut être d'autres solutions, des crèches, des solutions collectives d'habitat qui peuvent rendre service aux habitants.
Vous savez peut-être que les copros devront, à partir de 2023, faire un DPE et engager des travaux de rénovation à l'issue pour améliorer la performance énergétique des immeubles. Si je vous dis que vendre à un promoteur les droits à construire sur le toit des immeubles permet de financer ces travaux en faisant rentrer de l'argent dans le budget de la copro, comment vous réagissez ?
Ça ne change pas mon opinion sur le sujet.
Redites. Faut redire tout.
Alors, en gros, si je vous propose de vendre des droits à construire à un promoteur immobilier pour faire un étage ou deux étages supplémentaires dans votre immeuble, ça permet de faire rentrer de l'argent et de financer éventuellement les futurs travaux de rénovation énergétique qui seront obligatoires à partir de 2023.
Je n'ai pas d'avis sur la question à étudier, je ne sais pas. Ça dépend je ne connais pas les prix de ces travaux, je ne sais pas.
Alors, si je vous disais, peut-être en retournant la question, si peut-être l'immeuble d'en face ajoutait un ou deux étages, est-ce que vous vous sentiriez impacté ? Est-ce que vous sentiriez, pardon, impacté ? Ou est-ce que ça vous serait complètement égal ?
Ah non, ça m'embêterait beaucoup. Moi, je suis au quatrième et je n'ai pas envie d'avoir deux étages de plus devant moi. Non, ça, c'est sûr.
Poser dans l'autre sens, ça permet d'éclairer la question.
Alors, je pense que ça peut être une démarche intéressante. Après, à voir la construction, le nombre d'étages ajoutés, si la construction peut le supporter ou non au niveau de l'édifice. Mais pourquoi pas ? Je n'étais pas du tout au courant de cette solution.
Alors, beaucoup de choses, hein, dites. Didier, une réaction à ce qu'on a entendu là. On va parler tout à l'heure, dans la troisième partie, de l'acceptabilité et de la manière de convaincre. Mais sur les objectifs, ton regard, quels sont les objectifs ? Quel est l'argumentaire à dérouler ? Et bien sûr, on va y faire réagir le syndic de copropriété qui est avec nous. Argumentaire face aux copropriétaires, face à l'opinion.
Alors, la première chose, on l'a bien vu, hein, deux principaux, on va dire, craintes au départ, c'est est-ce que ça va changer l'image de mon immeuble ? Oui, forcément, puisque l'idée, c'est ça, c'est d'engager une copropriété ou en tout cas un bâtiment existant dans une démarche de rénovation, en tout cas par la surélévation. On voit bien le petit point aussi délicat qui est lié au patrimoine, à l'image. Voilà, donc ça, c'est un sujet extrêmement important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a beaucoup de possibilités pour faire des projets de surélévation. Ça ne veut pas dire forcément poser des boîtes sur le toit des bâtiments. Ça veut simplement dire peut-être reproduire des constructions existantes. En tous les cas, les augmenter en reproduisant en tous les cas l'architecture existante.
On peut faire des belles choses. Le beau est un critère. Hein, voilà.
Tout à fait. Donc ça, c'est le premier sujet. Le critère patrimonial est vraiment important. La deuxième chose très importante, c'est que notamment dans la démarche qu'on mène chez Upfactor avec Géoservices, c'est notre logiciel, c'est l'application des règles d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de dérogation. C'est-à-dire qu'on applique les règles et on montre les règles applicables. Donc, c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire qu'on fait les choses dans un cadre extrêmement, réglé et qui permet la plupart du temps d'aller au bout des projets. Voilà. L'autre pan, c'est de dire qu'est-ce qu'on en fait ? C'est pour faire quoi ? Alors, créer des logements, bien évidemment.
Logements ou autre chose. Hein. Très intéressant, on a entendu une femme répondre à Charlotte en disant on peut imaginer des commerces, des services, une crèche. C'est vrai que ça peut être d'autres choses que de l'habitation.
La grosse difficulté, bien sûr, ça peut être plein d'autres choses. Il y a plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire que la difficulté d'un règlement de copropriété qui, quand même, encadre l'utilisation, en tous les cas, les activités au sein d'un immeuble, mais aussi les questions de sécurité. Imaginons pouvoir faire un établissement recevant du public sur le toit d'un bâtiment, c'est pas si évident que ça.
Bien sûr.
Pour passer ces éléments-là, on voit bien que cette question de la densité qui est derrière tout ça, c'est-à-dire rajouter des logements sur un immeuble existant, elle peut être acceptée à partir du moment où ce n'est pas simplement une accumulation de personnes, mais une intensification des usages. Donc moi, je crois beaucoup à ce mot-là. Il faut qu'on développe des nouvelles façons d'habiter, des nouvelles typologies aussi d'habiter. C'est-à-dire qu'on peut faire du logement intermédiaire, du logement partagé. On parle beaucoup de co-living. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se développer, notamment dans ces projets de surélévation, qui ne sont pas uniquement, on va dire, des valorisations immobilières ou des aubaines financières. Quoi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée derrière tout ça.
Parfait. Sophie, je reprends une question majeure qui est celle de l'apport financier pour le financement. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, financement de la rénovation énergétique, le public n'est pas encore informé de ce qui est en train de se voter pour lui, pour les copropriétaires, pour les propriétaires de maisons individuelles, finalement pour tout le monde. On va devoir mettre aux normes de performance énergétique tout notre patrimoine. Ce sont des millions, des dizaines de millions de logements. quand on y verra clair, la loi sera votée définitivement au mois d'octobre, à la fin de cette année 2021. Je pense que si on repose les questions, les réponses seront plus précises. Mais on voit bien qu'il y a quand même une sensibilité. On fait rentrer de l'argent dans la copropriété et dans des proportions très importantes. Les travaux, on entend quelqu'un dire « je ne sais pas combien coûtent ces travaux ». Vous êtes très concrètement à l'éco-propriété. Ces travaux, ce sont des centaines de milliers d'euros pour le moindre immeuble.
Tout à fait. Ce sont des travaux très importants. Mais on a quand même pas mal commencé, là, pour le coup, à travailler en tant que syndic. On a quand même, à partir du fonds Allure... On a quand même commencé le fonds Allure, faire le diagnostic technique.
Pour Allure, on rappellera que c'est l'épargne obligatoire depuis 2014 qu'il faut constituer, c'est ça.
Oui, pardon, je suis tellement dedans que... Le fonds Allure obligatoire depuis 2014, le diagnostic technique où je convainc de le faire voter, parce que ça, elle ne l'a pas rendu obligatoire, la loi, donc ça aurait été bien. Et puis, avec ça, on travaille. Je pense à quelques immeubles que je gère, et les sommes sortent, des 2 millions, des 3 millions. Et... Donc les gens commencent à être conscients, donc... Arriver là-dessus avec la série élévation qui peut être une aubaine pour le coup de rentrée de fonds, je pense que ça pourrait être expliqué.
Tiens, un exemple, Didier, pour qu'on sache de quoi on parle. On va imaginer un immeuble de 25 logements typiques de Paris, de Bordeaux, de Lyon, un immeuble bourgeois, comme on dit. Si on vend les droits à construire pour surélever d'un étage ou de deux étages, l'apport en financier au profit des copropriétaires, il va être de quelle nature hein?
Alors, la plupart du temps, pour évaluer un droit à construire en surélévation, on a décidé, en tous les cas chez Factor, de partir un peu à l'envers, c'est-à-dire de définir une faisabilité, définir une surface constructible, d'aller envisager un montage immobilier avec un acteur immobilier type un promoteur.
C'est ça.
Et de faire un peu un bilan à l'envers en capant deux choses. Un, la marge du promoteur à 10%. Et en associant, on va dire, la copropriété à la potentielle performance d'un projet. Donc ça, c'est très important parce que ça permet de bâtir un bilan à l'envers et où finalement la part de la copropriété est évaluée en un pourcentage du chiffre d'affaires du promoteur. Donc les intérêts sont alignés et ce qui permet de donner, si je donne une fourchette, mais en gros entre 10 à 15% du chiffre d'affaires d'une opération immobilière peut être ramener directement dans un budget de copropriété pour financer des travaux.
L'exemple théorique d'une enveloppe qui peut arriver comme ça dans le budget de la copropriété.
Clairement, une copro comme ça, on va dire 20 lots, avec une possibilité de créer on va dire un peu plus de 500 mètres carrés, c'est une somme qui peut aller entre 600 et 800 000 euros dans Paris intramuros, directement à réinjecter dans un budget de travaux. Ou pour financer directement des travaux de rénovation.
Oui. Et on peut dire, Sophie, qu'une telle somme va financer peut-être la totalité des travaux si on touche à la couverture, l'étanchéification, au mode de chauffage, on risque d'avoir des enveloppes de cet ordre-là.
Tout à fait. Sur un 20 lots, comme l'exemple vient d'être pris, ça finance, oui. Ça financera bien ce dont on aura besoin de faire.
Et autre sujet, Sophie, si on fait arriver dans la copropriété, 3, 4, 5 ménages de plus, parce qu'on va construire autant de logements au-dessus de l'immeuble, on modifie l'équation des tantièmes, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va alléger quand même la charge pour chacun des copropriétaires.
Tout à fait. On va le distribuer, on va demander de l'argent sur plus de gens. Donc, mathématiquement, tout le monde participera beaucoup plus.
C'est clair. Alors, on va en arriver à l'acceptabilité, aux règles du jeu. On va parler aussi de droit, parce que la copropriété, on l'a dit, univers complexe, très réglementé, et un univers collectif où les décisions ne sont pas prises n'importe comment. Et on va parler aussi de travaux de choses très concrètes et de gênes pour les occupants. Voilà, donc on se tournera vers Didier. On va d'abord écouter ce que pense le public de sa capacité à accepter cette surélévation des immeubles.
Avis de valeur, le suffrage populaire.
Alors du coup, seriez-vous d'accord pour voter dans votre immeuble la surélévation ?
Je ne pense pas, d'autant plus que se construit à côté de notre immeuble un immeuble qui va être surélevé justement par rapport à l'existant et on n'est pas d'accord avec ce projet puisqu'il va avoir un impact directement sur notre ensoleillement.
Vous avez fait un recours ?
Oui, absolument.
Tout à fait, si le projet est construit intéressant, pourquoi pas, mon vote pourrait être favorable.
Oui, il faut voir, mais oui, oui.
Mais pas celui d'en face.
Mais pas celui d'en face. Voilà, c'est ça.
C'est merveilleux. Quel est le nombre maximum d'étages que vous trouvez acceptable dans nos villes pour un immeuble ?
C'est très variable selon les quartiers. Dans une petite rue, 5 ou 6, et ça peut être beaucoup plus si les espaces sont dégagés.
6 ?
6 ?
Ouais.
Je dirais qu'un immeuble de 10 étages est plutôt acceptable en moyenne. Habitant à Paris, on n'est pas habitué à avoir beaucoup de tours très hautes, à part dans le 13e ou certains quartiers. Donc oui, 10 étages, ça me paraît bien.
Bon, c'est très intéressant. Sophie, on peut rappeler les règles de majorité, comme on dit, hein, pour voter. Alors, elles ont évolué, le législateur en 2014, hein, la loi Allure que vous évoquiez.
Mais elle reste importante.
A quand même allégé, simplifié, elle reste importante. Comment ça se passe aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, vous allez présenter votre projet, vous allez avoir une majorité, ce qu'on appelle chez nous 26, qui est quand même les deux tiers de la copropriété, donc ça reste encore important. Enfin, il faut y expliquer que depuis 2014, on va vers l'allègement des règles, hein, des majorités. Donc celle-ci, elle est dedans, mais ça reste encore important parce qu'on va aussi modifier la règle du jeu, comme on l'a dit, qui va venir habiter, donc s'il y a plusieurs ménages, comment ça va se redistribuer. Il faut quand même l'acceptabilité de tout le monde et du projet et de comment on le gère après.
Oui.
Et donc la règle reste quand même une majorité article 26, puisque ce sera des règles du jeu pour l'avenir. Quand même.
Pour l'acquisition des logements qui vont être créés, si ce sont des logements, mais oui. On entendait Didier nous dire que c'était le plus simple, bien sûr, hein,
oui.
Et le plus nécessaire,
oui, parce
sans doute aussi.
Les ERP et tout ça, ça engage
c'est clair.
D'autres choses. Quand même.
C'est techniquement possible, oui. Mais il y a d'autres sujets. Imaginons des logements, on en a besoin au cœur de nos villes. Est-ce que les copropriétaires ont un droit de priorité pour acquérir ces logements ?
Celui qui est en dessous, enfin celui qui est le dernier étage aujourd'hui, qui demain sera l'avant-dernier ou encore avant, a un droit de priorité lorsqu'on va présenter le projet.
D'accord.
Bien évidemment, mais un droit de priorité, on a entendu les montants des enjeux. Droit de priorité, c'est du droit.
Bien
et puis
sûr.
Après, il y a la finance.
Et
quand
la finance,
on entend combien
clair.
Ça peut coûter, faire jouer son droit de priorité, ça veut dire avoir le pouvoir de le financer aussi, et de l'acquérir ou de le vouloir ou de...
Alors, intéressant, donc majorité, article 26, les deux tiers, mais il faut une acceptabilité générale.
Ouais, ouais,
globalement,
c'est ça.
En termes de conviction pour le syndic, il doit embarquer la totalité
ouais,
de la copropriété.
Ouais.
Didier, on a vu, ce monsieur persiste et puis il va plus loin, il dit il y a un immeuble qui se construit à côté, on a intenté un recours. Alors, c'est le fameux « not in my backyard », hein, c'est-à-dire « oui, pour qu'il y ait plus de logements, mais alors surtout pas face à chez moi ou à côté, parce que ça ne me plaît pas. L'immeuble d'à côté va être plus élevé, mais nous, on n'a pas envie de surélever le nôtre. » Ça, comment on fait basculer avec cet argument qui, d'évidence, est très fort ?
Bon, juste, je me permets, en revenant sur un tout petit point, c'est que dans les zones de préemption urbaine qui sont, on va dire, la majorité, on va dire des territoires dans lesquels on fait des surélévations, c'est-à-dire que les grandes métropoles, la majorité de l'article 26 est aujourd'hui allégée en article 25.
Oui, quand il y a le DPI, ouais, c'est ça, oui. Oui.
Exactement.
Je n'ai pas précisé
ça,
parce que c'était technique. Oui.
Voilà, c'est un point très important parce que c'est la plupart des surélévations qu'on fait voter aujourd'hui se font avec cet allègement-là, oui. Qui est aussi permis par la loi. Donc voilà. Oui. Pour revenir effectivement à cette acceptabilité de la part, on va dire, des copropriétaires et des habitants des villes en particulier, on se rend bien compte que, un, aujourd'hui, il faut des démonstrations un peu exemplaires. C'est-à-dire qu'il faut des démonstrations exemplaires qui, un, favorisent des travaux aux nuisances, on va dire, les plus réduites possibles, donc ça, c'est très important, mais aussi des intégrations de projets les plus intéressantes, c'est-à-dire et les plus, on va dire, les plus qualitatives possibles. Donc, c'est par ce biais-là qu'on fera, on va dire, aussi grandir l'acceptabilité dans l'opinion voilà.
Comment on montre ces exemples ? J'imagine que tu disposes là aussi de logiciels, de simulations. Est-ce qu'on peut voir ? Parce que par définition, ce qui est à venir, hein, en l'état futur, on ne le connaît pas. Et puis on a peu d'exemples. Ça commence. Hein, tu accélères l'histoire. Grâce à toi, on commence à voir ça dans nos villes, mais. Comment on peut montrer à des copropriétaires que ça sera beau ? On parlait de privation de lumière si l'immeuble en face le fait. Bon, ça peut être des sujets. Et quand même, un petit mot sur cette contrainte d'arrêter l'artificialisation des sols. Est-ce qu'on ne va pas être conduit, contraint, finalement, de le faire dans nos villes ? Parce qu'on ne veut plus qu'elles s'étalent. Et donc, c'est plutôt vers la hauteur qu'on va trouver des solutions.
Je dirais qu'on se rend bien compte aussi que la plupart des propriétaires aujourd'hui deviennent aussi très responsables dans leur engagement et dans leur acte d'être propriétaire. C'est-à-dire que quand on est propriétaire dans une ville, finalement, on est très investi, on va dire, dans l'entretien de son immeuble. On voit qu'il y a une prise en compte de l'existant et l'immeuble existant devient quelque chose de, on va dire, de très important. Alors, tout ce débat sur l'artificialisation des sols, il montre bien qu'aujourd'hui, effectivement, il faut intensifier les usages de l'existant et qu'une des possibilités d'intensifier ces usages, donc d'améliorer l'habitabilité et on va dire, l'exploitation des surfaces existantes, c'est notamment d'aller chercher sur ce territoire un peu inexploité, hein, que la toiture. Je vous invite tous à… alors, en ce moment, ce n'est pas très facile, mais quand on est, on va dire, dans l'escalator de Beaubourg, qu'on regarde Paris et on voit ce territoire qui est inexploité, quasiment inexploité, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors, on parle de végétalisation, on parle bien sûr de production d'énergie, on parle de création de logements, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est tous ces sujets-là qui, aujourd'hui, doivent être remis sur la table et où, par bonheur, les copropriétaires commencent à s'y intéresser et se disent, tiens, c'est peut-être une piste pour améliorer mon immeuble.
Je pense que quand même, l'acceptabilité, c'est aussi la hauteur. La hauteur, on l'a entendu, ils ont quand même des exigences en hauteur. Et c'est difficile, c'est un des sujets les plus difficiles, je pense.
Mais c'est une question de culture, finalement, qu'on entend des Parisiens, en l'occurrence, ce sont des Parisiens qu'on a interrogés, dire, allez, 5-6 étages, c'est vraiment le maximum que nous souhaitons.
Mais ce n'est pas un problème. À partir du moment où… grâce au logiciel géoservice qu'on a développé, on ne fait qu'appliquer les règles d'urbanisme.
Oui. Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on applique les règles de hauteur autorisées par le règlement d'urbanisme. Résultat.
Didier, est-ce que des pays ont pris de l'avance par rapport à nous sur ce sujet ?
Alors, quelques pays ont pris de l'avance. Je pense à la Suisse et à la ville de Genève en particulier, qui a bâti un plan surélévation très intéressant. Il y a un très bel ouvrage qui vient d'être publié récemment et qui montre 10 ans d'expérience de surélévation, et je trouve c'est… Alors, ils font un état des lieux, hein, c'est-à-dire des plus, des moins, mais malgré tout, on va dire, des belles perspectives pour l'avenir. Il y a également des villes comme Barcelone, donc en Espagne, ou l'Autriche, hein, bien sûr, à Vienne, où il y a des très belles expériences de surélévation à regarder.
Un point, Sophie, la question des travaux, parce que et ce sera la dernière précision, mais je crois qu'elle est majeure, que nous donnera Didier, on parle d'immeubles habités. Oui. Et on parle à des copropriétaires qui, pour la plupart, alors soit sont occupants, soit louent à quelqu'un qui occupe et qu'on n'a pas envie non plus d'embêter avec des travaux sur site. Est-ce que ça, c'est une réticence? Et puis, on va voir quelle réponse Didier s'est apportée à ça.
C'est une réticence, évidemment. Quand on vous dit qu'on va vous faire des travaux au-dessus de votre tête, on ne sait pas trop, il faut qu'ils comprennent, il faut bien expliquer. Je pense que c'est très pédagogique, ça. Il faut vraiment expliquer et tout. Et puis, la réticence peut être un petit peu levée par l'indemnité qu'on peut accorder, puisque la loi le permet, et c'est aussi si le syndicat des copropriétaires qui le donne ou pas, mais cette indemnité, bon, tout le monde sait très bien qu'à partir du moment où on parle d'argent, il y a de la responsabilité des travaux qui
allège,
est beaucoup plus…
Ça allège la souffrance. Didier, que sais-tu faire, ou que savent faire tes confrères qui travaillent déjà à la surélévation, pour que ces travaux soient acceptables, qu'ils n'apportent pas de troubles insupportables aux copropriétaires?
Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la grande vogue de ce qu'on appelle la construction hors site, c'est-à-dire d'essayer de déporter le chantier au maximum en atelier. D'accord. Alors il y aura toujours des impondérables, hein, liés au démontage, liés au ravalement des surfaces des façades existantes. Mais une fois, quelque part, la toiture préparée et prête à recevoir la potentielle surélévation, on pourrait tout à fait imaginer déporter la construction en atelier, la faire arriver petit bout par petit bout,
c'est ça,
en éléments pré-construits. Et donc, c'est toute la stratégie, notamment, qui est portée par le gouvernement, hein, dans différents plans de développement sur ce qu'on appelle la construction hors site, c'est-à-dire déportée, pour, grâce aux matériaux, bien sûr, bois, biosourcés, tous les matériaux aussi liés à la structure métallique qui permettent de développer ainsi des projets de surélévation faciles à construire et en limitant les nuisances pour les habitants des immeubles existants.
Le gouvernement a demandé d'ailleurs à deux experts, hein, dont Vincent Pavanello et Bernard Michel, hein, de travailler sur la construction hors site. On a du retard en la matière, mais on a envie de combler ce retard. Je voudrais vous remercier tous les deux parce qu'on est au bout de cette demi-heure de débat et je trouve que vous avez beaucoup éclairé cette réflexion. Il faut qu'elle avance, Sophie, dans la communauté professionnelle,
oui,
mais on y travaille. Cette émission va sans doute apporter
j'en
sa pierre à l'édifice.
Voilà. J'en parle en cours.
On forme les futurs syndics en les avisant de ça, ou les futurs professionnels d'immobilier au sens large. Didier, merci aussi de nous avoir parlé avec l'enthousiasme que tu as dans cette affaire. Hein, et on souhaite tout le succès possible à Factor, mais je crois que ça démarre un peu comme une fusée, Factor. Hein, au point que...
C'est un peu ça.
Voilà.
que ça dure.
Voilà. Tu manques pas de dossier, donc il y a une accélération de l'histoire, clairement. Tu la ressens.
Ouais, complètement. C'est vrai qu'on va dire que depuis le début 2021, notamment, on a une véritable accélération à la fois des votes en Assemblée Générale et des concrétisations de projets au niveau des permis de construire.
Et tout cela même en année de Covid, hein, c'est-à-dire de difficultés à réunir les copropriétaires. Merci à tous les deux. On se retrouvera dans un mois avec un autre sujet que vous connaîtrez bientôt. Je vous salue.
Merci.
Avis de valeur, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et toutes les plateformes de streaming.